On va parler d'ésotérisme. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est quoi exactement que vous faites?
Ce que je fais, moi?
Oui.
Moi, je fais tout dans mon possible pour détruire l'ésotérisme. D'une façon gentille, naturellement. L'ésotérisme, ça fait partie de la philosophie de l'homme. Ça fait partie de la recherche de l'homme vers l'inconnu, de la matière ou de l'esprit. C'est une belle science. C'est pas la fin du monde. C'est le commencement du monde. Mais pas l'ancien monde, c'est le monde nouveau. Dans l'évolution de l'homme, dans l'évolution mentale de l'homme, il s'est développé des pensées. Parce que l'homme a la faculté de penser. Et ces pensées-là l'ont amené petit à petit à considérer différents aspects de la réalité, suivant sa sensibilité, sa perception, ou suivant les dons particuliers qu'il possède de par ses incarnations antérieures. Et dans ce processus de recherche vers l'absolu, dans ce processus de recherche vers la compréhension totale, l'homme automatiquement doit faire des erreurs parce qu'il pense. Tant qu'on pense, on doit faire des erreurs, c'est normal. Sans ça, on pensera une fois, ce serait fini. Alors, ce qui s'est produit au cours des siècles, c'est qu'il y a eu une accumulation, petit à petit, des meilleures pensées. Et ces pensées les plus fortes, les plus hautes en vibration, se sont accumulées et ont formé ce qu'on appelle des systèmes philosophiques, soit cartésiens ou des systèmes philosophiques ésotériques. Autrement dit, ces pensées accumulées ont formé la base de la connaissance de l'homme. Certains hommes, suivant leur propensité naturelle, suivant leur tempérament, sont attirés vers certaines formes de pensée, et d'autres hommes, suivant leur tempérament encore, sont attirés vers d'autres formes de pensée. Le danger dans l'ésotérisme, le danger dans la philosophie, le danger dans la pensée, c'est que tant qu'on pense, on pense. Et tant qu'on pense, on ne peut pas être en dehors de la forme de la pensée, parce qu'on se sert de cette forme-là pour véhiculer l'énergie de la lumière et essayer de pénétrer par le biais de l'ego les dimensions incommensurables de l'esprit. Alors, penser, c'est un outil. Tant que l'homme doit se servir d'un outil, s'il réalise que c'est un outil, à ce moment-là, c'est bien. Mais si l'homme cesse de réaliser que la pensée est un outil et qu'il prend le fruit de la pensée comme une fin en elle-même, à ce moment-là, il retarde la progression totale de sa conscience vers le supramental. Quelle que soit la profondeur ésotérique ou occulte ou cabalistique d'un homme, cette profondeur est toujours en relation avec l'élévation de ses pensées. Si un homme, à un certain moment de sa vie, doit en arriver à fusionner avec des forces qui sont dans ce que vous appelez la lumière, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de penser. Un radio, ça pense pas, ça parle. Alors, l'ésotérisme, c'est très bien, tout est très bien, tout est très beau. Mais les gens doivent réaliser, à un certain moment dans la révolution ésotérique et cabalistique, que il y a une limite à la pensée. Et la limite à la pensée, elle est imposée par la forme de cette pensée. Et l'homme de l'avenir, l'homme qui entrera en contact avec des intelligences qui ont dépassé le niveau de la conscience animale humaine, sera dans cette conscience totale dans laquelle le phénomène de pensée n'existe pas parce qu'il n'est plus nécessaire. Le phénomène de pensée n'existant plus parce que n'étant plus nécessaire, éliminera totalement la nécessité de posséder une mémoire personnelle. Ne possédant plus de mémoire personnelle, l'homme ne pourra plus accumuler des formes pensées et petit à petit, il perdra son intellect. En perdant son intellect, son intelligence sera changée, sera altérée, sera transformée, le niveau vibratoire de son corps mental sera changé, de sorte que l'homme, au lieu de se servir de son intellect, qui est foncièrement composé de pensées à la fois mentales et émotives, ne se concernera plus pour la connaissance, parce qu'il sera dans la connaissance. Mais il ne sera pas dans la connaissance de la même façon que l'homme d'aujourd'hui croit à la connaissance. La connaissance pour l'homme d'aujourd'hui, c'est un but à atteindre. La connaissance pour l'homme de demain, c'est un état d'esprit qui est permanent, qui est inchangeable et qui est directement lié à la fusion qu'il possède sur le plan du supramental, sur le plan de l'âme, avec les forces de la lumière qui cherchent à renouer contact avec l'homme pour permettre le retour de la lumière vers la lumière. Le plus grand danger de la pensée humaine, quelle que soit la qualité positive des fruits de cette pensée, c'est que les pensées sont des formes. Et si l'on regarde l'évolution de l'univers, on s'aperçoit que lorsque les mondes inférieurs ont été créés, les plans inférieurs ont été créés, et que la lumière devait passer par ces plans pour manifester sa présence, l'énergie, le tracé de cette lumière dans les plans inférieurs a laissé une matière qu'on appelle l'ego, qui est en fait de la mémoire. La mémoire de l'ego, ou la mémoire qui est ego, qui a servi à l'évolution de l'âme, est une mémoire composée de formes. Et ces formes-là ont été créées en relation avec la densité des mondes inférieurs. Et plus les mondes étaient denses, plus la lumière avait de la difficulté à pénétrer, plus les formes étaient puissantes. De sorte que l'homme, maintenant, aujourd'hui, après des millénaires, des grandes périodes d'évolution, après avoir développé les corps principaux pour atteindre la conscientisation personnelle de son ego et la réalisation aussi active de l'énergie de l'âme lorsqu'il est arrivé à un certain niveau d'évolution, est obligé, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, sur le plan de l'évolution, il est obligé à un moment donné de réaliser que tout ce qui a été bon, tout ce qui a permis l'évolution, tout ce qui a permis le développement de l'homme, à partir du corps physique jusqu'au corps mental, fait partie de la progression des chaînes d'évolution dans le cosmos. Mais ce que l'homme doit comprendre, c'est que l'âme, les énergies de la lumière ont descendu dans la matière et elles doivent retourner à la lumière. Tant que les énergies sont encapsulées dans des formes, elles ne peuvent pas retourner à la lumière. Et c'est ici, c'est à ce point-là, de la progression de l'évolution de l'âme, que se situe la pénétration du supramental, ou le développement du supramental, ou la fusion de l'âme avec les forces de la lumière, qui force l'ego à restituer ce qu'il a accumulé pendant des millénaires et à recommencer le dialogue qui a été perdu, qui a été éteint avec les forces de la lumière, ce qui est permis par la fusion. C'est évident à n'importe quelle intelligence que si l'homme, l'ego, est fusionné avec les intelligences de la lumière, l'ego n'a plus besoin de penser. C'est simple, c'est un problème très simple. Mais l'ego, lui, n'étant pas dans cet état, étant avisé dans certains milieux que l'évolution doit progresser ainsi, se sent, dans ses débuts de l'expérience, mal à l'aise. Et c'est normal. L'ego est mal à l'aise parce que tout ce qui constitue sa réalité, tout ce qui constitue son orgueil, tout ce qui constitue sa vanité, tout ce qui constitue ses succès, tout ce qui constitue son avancement dans telle science ou dans telle science, fait partie de la sécurité dont il a de besoin sur le plan psychologique pour se sentir en équilibre avec la société, pour se sentir en équilibre avec lui-même. Alors, on ne peut pas blâmer l'ego pour trembler devant la fusion. Mais l'ego, qu'il tremble devant la fusion ou non, qu'il tremble devant le contact avec les forces de l'esprit, les forces la lumière, ce tremblement-là fait partie de sa résistance. Et cette résistance-là, elle est normale, elle est naturelle. Petit à petit, l'ego, parce que tout est connu, l'ego, qui doit retourner dans un champ d'expérience qui est alimenté par les forces de l'âme, sera marqué par ces forces petit à petit et graduellement atteindra le niveau de vibration nécessaire pour entrer en compréhension totale avec ces intelligences qui n'ont jamais cessé de contempler. Le problème aujourd'hui dans le monde moderne, le problème particulier de l'ésotérisme, de la philosophie, de tout ce qui est intéressant, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est grand, de tout ce qui fait partie de l'évolution de l'ego vers les couches plus abstraites de la pensée, est tout de même un aspect qui, dans l'avenir, sera totalement renversé. Et elle sera renversée parce que l'homme doit travailler avec les forces de la lumière, pas tous les hommes, mais un certain nombre d'hommes. Et ces hommes qui travailleront avec ces forces, et ce travail a déjà commencé, seront par le fait même entraînés petit à petit, graduellement, à reconnaître en eux une vibration, une énergie, qui fera trembler l'ego, qui créera dans l'ego le doute, qui mettra tout en question, soi-même et des autres, pour éventuellement en arriver à être totalement libre de la forme. Une fois que l'homme sera libre de la forme, il ne sera plus attaché à cette forme, que ce soit de la forme matérielle ou de la forme spirituelle, et il se servira de son énergie créative provenant du supramental, passant par l'âme, l'ego et la personnalité. Il pourra retraduire sur des plans supérieurs de l'évolution de nouvelles formes d'énergie, mais qui ne seront pas sous le contrôle des forces sataniques. Le grand danger, le grand mal pour l'humanité, c'est que l'homme ne connaît pas les lois même de l'évolution. L'homme ne réalise pas que ce qui est créé, ce qui a été créé dans un but éventuel de haut développement, mais que dans la période première de ce travail, dans la période où aboutit l'homme qui doit passer par un stage de développement, tout ce qui a été créé est un aspect de près ou de loin qui découle de la projection dans les espaces absolus des forces lucifériennes, retrempées dans la conscience égoïque des forces sataniques et projetées sur le plan humain dans l'expérience planétaire de l'homme en tant que mal véhiculé et mal transformé et mal retourné qui mène éventuellement l'homme à la souffrance. La plus grande sagesse qu'on puisse avoir envers tous les mots, envers toutes les idées, c'est de toujours attendre le développement de ces idées, de ces mots, jusqu'à leur épuisement total. Quand on parle de quelque chose, il faut toujours fermer le cercle. Si on ne ferme pas le cercle, à ce moment-là, l'esprit demeure en suspension. Tout s'explique. Tout est connaissable, tout doit être connu, et l'homme est arrivé à un point aujourd'hui dans son évolution, maintenant qu'il est prêt mentalement, l'homme doit tout connaître. Et toute intelligence qui refuse à l'homme de lui faire connaître ce qu'il doit connaître est automatiquement liée aux forces que vous appelez ésotériquement des ténèbres. C'est le droit le plus absolu de l'homme de tout connaître. Et les invitations, les attitudes psychologiques ou religieuses, toutes les attitudes qui empêchent l'homme, ou les formes qui empêchent l'homme de connaître, les plus grands secrets de l'univers sont des attitudes, sont des formes qui font partie du grand mal cosmique. Et le plus grand danger de ces attitudes, c'est que ces attitudes souvent sont tellement bonnes, elles sont basées sur une motivation tellement positive, protéger la société, protéger les intérêts du peuple, protéger les intérêts de la nation, de l'organisation, protéger même les intérêts de la connaissance. Toutes ces formes doivent être détruites. Il n'y a pas une société, pas une organisation, pas un peuple, pas un gouvernement qui a le droit, d'ailleurs le pouvoir, d'empêcher l'homme de tout savoir. Et ça, c'est sur le plan humain. C'est le moins dangereux. Mais sur les plans cosmiques, sur les plans invisibles, c'est là que le travail se fait. Ce n'est pas sur le plan humain, parce que sur le plan humain, le mal planétaire est simplement un résultat de l'ignorance de l'homme. Mais le grand mal, le mal cosmique, les lois de la pénétration de la lumière dans les plans inférieurs de l'évolution, les intelligences qui existent sur ces plans et qui ont elles-mêmes un plan qui est totalement impossible à l'homme d'imaginer parce qu'il pense, c'est là le grand danger. Lorsque quelqu'un retentit comme un poil sur la soupe et commence à tout chambarder, commence à tout mettre en question, que ce soit le sacré ou le profane, qui a été la base d'une civilisation ou la base d'une philosophie pendant des siècles, à ce moment-là, l'ego, le doute, commence à montrer sa tête. Et ce sont justement ces formes qui font partie de la polarité du corps mental inférieur de l'homme, qui font partie de ses émotions, dont se servent des forces invisibles pour retarder l'évolution de l'homme et empêcher l'homme un jour d'être totalement libre, autonome, créateur et indépendant de tout. Indépendant de tous les maîtres, indépendant de toutes les écoles de pensée, indépendant de toutes les façons de penser, et de se retrouver dans l'esprit de l'universel, en liaison totale avec d'autres hommes qui ont avec lui la même vibration. Je peux continuer, mais on peut continuer. Mais
est-ce qu'il n'y a pas une nuance à faire entre les intelligences et l'homme? Lorsque vous utilisez le mot « homme », vous parlez beaucoup d'ailleurs au futur, l'homme futur fera, l'homme devra, l'homme il y aura à telle époque où c'est toujours dans le futur, l'homme du futur. Mais cet homme du futur qui ne pensera pas, qui retournera à la lumière, ne sera plus, ou est-ce que je me trompe, l'homme, l'être humain d'aujourd'hui, sera-t-il plutôt une intelligence, plutôt qu'un homme ou un être humain? Y aura-t-il dans le plan de ce qu'on pourrait appeler une autre forme d'intelligence en relation avec l'esprit? Un. Deuxième point, vous avez dit qu'on ne doit plus cacher...
Donnez-moi la fin à la fois.
Allons-y avec ce premier point-là.
Bon. Quand je parle de l'avenir, je parle de l'homme du futur, je parle de l'homme de demain, ça fait partie de la philosophie de l'avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant... Sur la planète Terre, il y a des hommes qui sont en contact avec des énergies de transformation, qui proviennent des plans invisibles. Et ces hommes ne comprennent pas ce qui se passe en eux. Ils ne réalisent pas le phénomène. Ils le subissent. Et parce qu'ils subissent le phénomène et qu'ils ne le réalisent pas, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne le comprenant pas, ils vivent des moments pendant une certaine période de temps qui sont souvent très traumatiques. Une des raisons pourquoi je viens dans le public pour expliquer des choses qui sont un peu difficiles à comprendre, c'est que moi-même, j'ai fait l'expérience de ce passage d'énergie. Et comme l'expérience est la plus haute forme de connaissance, il devient important à un homme qui a eu l'expérience de communiquer les aspects psychologiques de cette expérience. Non pas l'expérience elle-même, parce que l'expérience est personnelle, mais les aspects psychologiques de cette expérience. Pour pour faire comprendre aux individus qui se dirigent dans le temps et qui un jour, qu'ils soient de n'importe quel pays, seront amenés à passer sur d'autres plans de la réalité, faire réaliser à ces individus qu'ils sont en évolution, qu'ils sont normaux, qu'ils sont très normaux, et que tous les aspects psychologiques de cette transformation dont ils commencent simplement à prendre conscience sont des aspects normaux de cette transformation. Alors, si je parle de l'homme de l'avenir, je parle de ce temps qui n'est pas très loin, où les hommes, les femmes, les enfants, sur la planète Terre, auront le pouvoir, la capacité, la normalité de voir dans l'invisible et de travailler avec des intelligences dans l'invisible qui ont accès soit à la matière solide ou à la matière invisible et qui travailleront avec ces intelligences. Mais l'homme n'est pas encore arrivé à ce point. Il est en transformation. Pendant cette période de transformation, il y a énormément d'obstacles parce que les formes deviennent de plus actives, de plus en plus actives. Parce que les forces retardataires dans l'invisible ne veulent pas que l'homme sache. C'est évident. Si l'homme sait, ils n'ont plus de domination sur l'homme. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que l'homme souffre de ses formes à un rythme de plus en plus élevé. Et c'est très nécessaire que cet homme-là connaisse les lois psychologiques du supramental qui peuvent lui faire comprendre qu'il est très normal, lui. Même si tout le monde est fou, lui, il est très normal. On a de la difficulté à se croire normal quand tout le monde est anormal. On a toujours tendance à dire « moi, je ne suis pas normal et tout le monde est normal », mais c'est le contraire. L'homme de l'avenir, qui est en préparation, qui est en évolution très rapide d'ailleurs, fait partie de l'homme d'aujourd'hui et la transmutation qui créera cet homme de l'avenir, quand je dis « créera », je dis qu'il l'amènera à un niveau de vibration où il pourra réaliser ses pouvoirs internes, qu'il a toujours eu d'ailleurs. Cet homme de l'avenir prendra naissance sur la planète quand ce sera le temps. Mais en ce qui vous concerne, si vous commencez à vous intéresser un petit peu trop à l'homme de l'avenir, ça fait partie de la philosophie, ça fait partie de l'ésotérisme, ça fait partie de vos illusions. Autrement dit, si vous êtes des carottes dans le champ, occupez-vous de pousser et laissez faire la couleur de votre carotte. Il y a des gens qui passent leur temps à contempler leurs carottes. Ils oublient de pousser. C'est ça le danger de la pensée.
Ça répond très très bien à la première question. C'est donc l'homme, l'être humain, très semblable à celui qu'on retrouve aujourd'hui avec quelques modifications sur le plan vibratoire. Et donc encore on parle d'un être humain corporel, physique.
C'est l'homme d'aujourd'hui avec des modifications sur le plan vibratoire, c'est l'homme d'aujourd'hui avec des modifications au niveau des neurones, c'est l'homme d'aujourd'hui demain.
La deuxième interrogation dans votre première partie était, lorsque vous avez dit, toute doctrine, toute école, toute religion, tout mouvement qui cache la vérité à l'homme fait partie des forces des ténèbres, travaille en harmonie ou pour les forces des ténèbres. Pourtant, il me paraît évident...
Je vais vous répondre ici parce que c'est un point très important. J'ai toujours dit, quand je vous parle, essayez de comprendre ce que je vous dis et non pas de comprendre ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez qui m'intéresse, c'est ce que je vous dis. Si vous vous occupez de comprendre ce que je vous dis avec ce que vous pensez de ce que je vous dis, à ce moment-là, vous allez retourner en arrière. Mais si vous ouvrez votre esprit et essayez de comprendre ce que je vous dis, moi, à ce moment-là, avec le temps, vous verrez que ce que je vous dis, c'est ce que vous savez. Quand je dis que les sociétés les sectes de philosophie, tout ça fait partie de l'évolution philosophique de l'homme et que c'est bon, c'est bon. Ce qui est bon, c'est bon. Ça, c'est l'aspect positif du mal. L'aspect négatif du mal, parce qu'il y a le mal vrai et le faux mal. L'aspect négatif du mal, c'est le point où les individus deviennent prisonniers des formes qui sont cultivées dans ces terrains philosophiques. Or, il y a deux aspects à la connaissance de l'homme. L'aspect involutionnaire, l'aspect qui regarde le développement de son corps mental, de son intelligence, ça c'est bon. Ça c'est le faux mal. C'est cet aspect du mal qui relève de la forme, et comme la forme relève du mal, cet aspect aussi relève du mal. Mais il ne relève pas du mal dans un sens moral. Il relève du mal dans un sens mécanique du mal. Il fait partie des lois cosmiques du mal. Cet aspect du mal, l'homme ne doit pas s'en préoccuper. Mais il doit un jour comprendre que cet aspect du mal faisait partie de son évolution spirituelle. L'autre aspect du mal, le mal négatif, qui est directement lié à la construction des formes, la confusion des formes, l'erreur créée par les formes, cet aspect du mal que l'on peut retrouver dans différentes écoles, cet aspect du mal fait partie du grand mal universel, et l'homme, la réalité existe, mais la connaissance est une manifestation de la réalité sur les plans où cette réalité peut être véhiculée par des mots. Mais dans la réalité, la connaissance telle que nous la percevons n'a aucune signification. La connaissance telle que nous la cherchons, telle que nous la voulons, fait partie de l'évolution du mouvement de notre ego vers une sensibilité intérieure qui nous vient directement de l'âme. C'est ça la connaissance. Une fois que l'homme est en contact avec les énergies de l'âme, il n'a plus besoin de connaissance puisqu'il est dans le savoir. S'il est dans le savoir, à ce moment-là, l'énergie de ce savoir, une fois qu'elle est exprimée par le cerveau, une fois qu'elle est exprimée dans l'expérience, devient pour l'humanité de la connaissance et elle sert à permettre l'évolution des êtres qui sont un peu en retard dans l'évolution cosmique. Alors, le concept du mal, ce que j'appelle le mal cosmique, je donnerai un autre mot un jour, mais pour le moment j'emploie le terme le mal cosmique. Le mal, c'est un phénomène naturel. Le mal cosmique, c'est un phénomène naturel qui provient de la répulsion entre la lumière et les mondes dans lesquels elle pénètre. Ce mal est normal parce qu'il constitue la base même de la création des mondes inférieurs. Ce qui doit être compris au niveau de l'homme, c'est que le mal cosmique, à un certain moment, peut être totalement inaffectif chez l'homme, parce que l'homme, à ce moment-là, n'est plus affecté par le mal planétaire. Le mal cosmique va exister pendant un bon bout de temps encore, mais le mal planétaire doit cesser. Le mal planétaire, c'est ce mal qui est directement lié au karma humain et qui crée la souffrance. Le mal cosmique ne crée pas la souffrance, il crée des mondes.
Bon, alors ce soir, je suis venu écouter Bernard. J'ai lu beaucoup de choses dans des livres. J'ai même été informé par des amis qui font partie de différentes écoles ou organisations ésotériques. J'ai découvert une chose, c'est que dans le passé, il existait des sectes comme l'Ordre des Templiers, les Rose-Croix encore, et d'autres, qui ont, semble-t-il, accumulé des connaissances, une science et aussi à la fois une sagesse intérieure qui sécurise, mais qui leur ont aussi apporté dans le passé beaucoup de problèmes. J'apprends à tous les ans, paix aux hommes sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté sur la terre. Je m'aperçois que beaucoup de ces gens de bonne volonté ont adhéré à des organisations, que ce soit même à des religions.
Tu peux commencer ici.
Oui, tu peux commencer. Parce que c'est la clé, justement, la bonne volonté.
La bonne volonté, ça vaut rien. Parce que la bonne volonté, c'est pas de la volonté. La bonne volonté, ça vient du cœur, ça vient pas du mental. Paix aux hommes de bonne volonté. Ça veut dire que ceux qui ont de la bonne volonté sont moins susceptibles au retour du karma. Mais de la bonne volonté, ça vaut rien. De la bonne volonté, ça fait partie de tout ce qui est émotif dans l'homme. La volonté, ça c'est une autre chose. La volonté, c'est une puissance. C'est une énergie qui vient de l'âme, qui traverse l'ego, passe par la personnalité et éclaire l'expérience humaine dans un but d'évolution qui ne se discute pas et qui n'est pas sujet à la contrainte des forces du mal. Ça, c'est la volonté. Mais la bonne volonté, vous pouvez en avoir tant que vous voulez, vous serez toujours emprisonné dans les formes, et la bonne volonté, si elle n'est pas contemplée dans l'esprit, en relation avec les forces de l'âme, fait partie aussi du mal cosmique. Alors, la bonne volonté, c'est la base qui a permis aux forces des ténèbres de créer, sur le plan matériel, des conditions d'évolution aptes, avec les siècles, à emprisonner dans des formes l'esprit humain. Alors, la bonne volonté, sur le plan cosmique, ça ne vaut rien. La volonté, c'est un atout pour l'homme, parce que la volonté vient de l'âme. L'énergie de la volonté vient de l'âme. Et c'est avec cette énergie que l'homme doit travailler. S'il travaille avec de la bonne volonté, cette bonne volonté fait partie de sa personnalité, fait partie de son tempérament, fait partie des couleurs de sa personnalité, fait partie de son environnement social, culturel, familial. Ça sert à créer des bonnes œuvres. Et si les gens qui créent des bonnes œuvres peuvent être détruites par les forces du mal, leur bonne volonté ne sert qu'à enrichir leur expérience, mais non à détruire le mal.
Bravo, très bien. Mais je découvre aussi en étudiant les écoles ésotériques que la plupart de ceux qui ont traversé le temps ont eu foncièrement une volonté ferme de transmettre certaines connaissances, certaines vérités qui ont aussi été capables de traverser le temps.
Les vérités qui ont traversé le temps, c'était des vérités qui avaient une vibration qui était plus haute que la vibration normale du mental humain. Les vérités qui ont traversé le temps ne passeront pas l'an 2000. La connaissance occulte de l'homme, la connaissance accumulée de l'homme depuis des siècles et des siècles et des siècles, la connaissance des Templiers, la connaissance de toutes ces grandes sociétés qui ont aidé à l'évolution de l'homme et qui ont aidé à maintenir sur la planète Terre la liberté, avec la venue sur le plan matériel, force de la lumière, en contact avec l'homme, ces connaissances-là ne seront plus nécessaires. Elles feront partie du musée de la vérité, mais elles ne seront plus nécessaires parce que l'homme ne se servira plus de ses forces, de ses énergies pour transmuter sa société, mais il se servira de l'énergie de l'âme pour créer des formes nouvelles. L'ésotérisme fait un mouvement en hauteur, fait un mouvement, un sursaut vers la fin du siècle, et tout à coup, il tombe mort. Alors, comprenez-moi bien, je ne dis pas que ce qui a été bon et nécessaire dans le passé n'était pas bon. Ce qui a été bon et nécessaire dans le passé faisait partie de l'évolution de l'homme. Mais lorsque l'homme sera en contact avec les forces de la lumière, ces connaissances-là seront dépassées. Parce que ces connaissances-là ne sont pas scientifiques. Alors, le problème avec l'occultisme et l'ésotérisme et toutes ces choses, c'est que, en relation avec l'avenir, il ne peut plus servir parce qu'il n'est plus, il n'est pas scientifique. Et une connaissance, l'application d'une loi, est scientifique lorsqu'elle est composée intégralement par l'homme, en relation avec les forces de l'âme. L'homme doit connaître tous les secrets de la matière, de toutes les matières, pour composer, dans les dominions de l'évolution, les bases évolutives nécessaires
pour réorganiser la matière qu'il doit spiritualiser parce que ça fait partie de son évolution. Ce qui est venu avant a servi à spiritualiser l'homme, à élever l'homme, à le retrancher de sa conscience animale. C'était le but de ses connaissances. Mais dans l'avenir, lorsque l'homme sera dans la connaissance, ses buts auront été atteints et l'homme entrera dans une ère nouvelle où la connaissance sera totalement autre.
Lorsque l'homme entrera dans cette ère nouvelle, est-ce que je peux utiliser l'image qu'on a dans le temps très ancien où Adam et Ève ont été chassés subitement, non pas dans leurs enfants, mais eux-mêmes qui avaient vécu le paradis terrestre, ont été chassés en eux-mêmes de ce paradis terrestre, envoyés dans les souffrances, etc. Se peut-il que ce passage se répète en sens inverse, où le même être humain, mais ramené dans un paradis ou autrement, par une force extérieure, qu'on appelait l'ange avec l'épée de feu au paradis terrestre lorsque Adam et Ève en avaient été chassés, que cet homme donc sera ramené en lui-même, donc dans l'espace d'une génération ou à peine, par une force extérieure. Il y a deux points dans cette question-là. Est-ce une force extérieure qui fait changer l'homme et est-ce que ça se fait subitement dans un homme, dans l'être humain?
Vous avez parlé de l'an 2000 tantôt, c'est très proche.
Le changement, l'homme nouveau, la force qui donnera naissance à l'homme nouveau est une force qui vient de l'extérieur de l'espace-temps. Cette force, elle n'est pas une force extraterrestre. Les forces qui entreront en contact avec l'homme sont des forces de la lumière. Ce ne sont pas des extraterrestres. L'homme travaillera avec les extraterrestres. L'homme créera le pont entre la matière et la lumière pour l'évolution des extraterrestres. Parce que l'homme est plus grand que les extraterrestres, sur le plan évolutionnaire cosmique. L'homme est la seule entité dans le cosmos qui possède une âme faite de ce que j'appelle la matière mentale de Dieu, de ce que vous appelez Dieu. Les extraterrestres ont une âme faite de ce que j'appelle la matière de l'amour de Dieu, de ce que vous appelez Dieu. Alors, ce sont deux essences absolument différentes. L'homme est le seul être dans le cosmos qui a le pouvoir, d'ailleurs c'est pour ça que le Christ est venu sur cette planète, qui a le pouvoir d'établir un pont entre la matière et la lumière. Et les extraterrestres ne vont pas vous le dire. Et surtout, les extraterrestres, ou ces entités, ou ces races d'outre-espace, qui ne travaillent pas pour l'évolution de l'homme, mais qui travaillent pour le retardement de l'homme. Il y a des entités dans l'espace qui travaillent effectivement pour l'évolution de l'homme. Mais il y a des entités dans l'espace qui travaillent contre l'homme, et ces entités font partie de l'évolution des forces sataniques dans les mondes extérieurs. Alors, il est temps que les hommes cessent de croire à tout ce qu'ils entendent. C'est pour ça que je dis toujours, tant que vous allez croire, tant que le mécanisme de croyance ne sera pas détruit dans vos esprits, vous serez toujours sujet aux formes et automatiquement, vous serez toujours sujet à l'ignorance parce que votre connaissance ne pourra pas monter à la surface. Alors, la transmutation de l'homme sera faite par les forces de la lumière. Les forces de la lumière gouvernent sur certaines races en évolution que vous appelez des races extraterrestres et ce sont ces races qui seront au chevet de l'homme et qui aideront l'homme à établir dans l'étoile de la planète, dans les terres de la planète, les bases de sciences nécessaires à l'évolution de la sixième race. Et l'homme sera totalement indépendant. Quand je dis l'homme, là, je ne dis pas tous les hommes, je parle de l'homme. L'homme nouveau. Et l'homme nouveau sera totalement libre des influences psychologiques, hypnotiques, astrales, des extraterrestres qui travaillent avec les forces plutoniennes. Alors, il y a deux sortes d'extraterrestres. Il y a une force dans l'univers. La force dans l'univers dirige toute l'évolution. Les hommes qui doivent retourner à la lumière retourneront à la lumière parce que cette force fusionnera avec eux et leur permettra, à cause de la fusion, de travailler avec des races en évolution qui sont très avancées sur le plan scientifique et sur le plan d'évolution avec l'homme, mais non pas pour le dominer, non pas pour lui tracer la carte de son évolution, mais pour lui aider à remplir la tâche énorme qu'il a envers le cosmos extérieur, celui d'établir le pont entre la planète Terre et l'île du paradis.
Bernard, j'ai toute une réserve quand quelqu'un, de quelque origine que ce soit, me place le centre d'une réalité sur son nombril. Quand je vois à l'époque où on pensait que le centre de l'univers est en Grèce, quand on pensait que le centre de l'univers c'était la planète Terre, quand on a découvert finalement que ça tournait autour du Soleil, quand on a vu un envoyé de Dieu ou qui s'est dit envoyé de Dieu, que ce soit en Orient, ben c'était le vrai Dieu, celui dont celui-là nous parlait, parce qu'il s'adressait à ce peuple-là. On a formé des religions dans différentes races, parce qu'on avait notre représentant de notre race qui avait été, lui, en contact avec le seul et unique vrai Dieu. Des gens qui se voient le nombril dans toutes les situations, j'ai toujours peur. Quand un type me dit « Nous sommes les seuls d'une incarnation particulière en relation avec l'âme, qui est en relation directe avec la création du mental, de ce qu'on appelle Dieu. On est les seuls dans tout l'univers. » Je recule de 3 pas. Au risque de tomber en bas de l'estrade, j'aime autant reculer de 3 pas parce que le nombril, je m'en méfie maintenant. Et il y a eu des êtres humains dans le passé qui ont, si on admet la réalité des extraterrestres, étaient amenés sur d'autres planètes, dans d'autres mondes, sur d'autres univers. Ils auraient aussi des enfants qui existeraient ailleurs, qui seraient, eux, pense-t-on, les seules et uniques créatures dans tout l'univers représentant l'incarnation de l'âme mentale de ce qu'on appelle Dieu. J'ai peur au nombril qu'on retrouverait un peu partout, hein, finalement.
Bon. Puisque vous avez peur au centrisme, au nombril, c'est bon. Parce que si quelqu'un vous dit une chose et que vous le croyez, vous êtes dans la merde. Si quelqu'un vous dit une chose et que vous le croyez, vous êtes dans la merde, et toi aussi. Si tu crois ce que je dis, tu es dans la merde. Parce que automatiquement, tu prends la forme de ce que je dis et tu essaies de situer cette forme en relation avec une évolution quelconque. Le principe, ce n'est pas de croire ce que je dis, c'est d'écouter ce que je dis et d'essayer éventuellement de saisir en soi-même ce que vous savez. Il faut partir du principe que la connaissance, elle est universelle, que tous les gens ont la connaissance, que tous les gens n'aient pas la même sensibilité à l'énergie, ça va, mais que tous les gens aient accès à l'information universelle, c'est inévitable et nécessaire. Si je parle de l'homme qui doit établir un pont entre la planète et les plans de la lumière, je parle de la nécessité évolutionnaire de l'homme qui est directement liée avec la nécessité évolutionnaire du cosmos. Si je parle de la transmutation de l'homme et de la nature de l'âme de l'homme et des contrats qui existent entre l'homme et des civilisations d'outre-espace à l'échelle de la galaxie, ces choses-là font partie de l'évolution du monde. Le but de ce que je fais sur la plateforme n'est pas de donner à l'homme un espoir spirituel, mais de faire comprendre à l'homme que l'homme, l'individu lui-même, est grand. Il est temps que les hommes, les individus, regardent leur nombril et le mettent sur la table, parce que depuis des siècles, on s'est mis sur le ventre le nombril des autres. Alors, il est temps que l'homme commence à regarder son nombril, pas à la façon hindoue, mais regarder son nombril dans ce sens de réaliser qu'il a en lui de l'énergie, de la lumière, et que cette lumière-là est la force qui doit le diriger dans les mondes, dans les éthers.
Et si cette force, si cette intelligence vous fait réaliser telle ou telle chose, ça fait partie de la relation vibratoire entre vous et cette intelligence. Mais si vous réalisez telle ou telle chose et que vous le dites aux gens et que les gens croient ce que vous dites, à ce moment-là, vous formez un état d'esprit psychologique, spirituel, philosophique, ésotérique, qui retarde l'évolution de ces gens-là parce que vous devenez automatiquement une béquille. Alors, il y a deux options. Que vous, si vous me demandez une question et que je vous parle de l'évolution de l'homme dans 2000 ans, j'ai la capacité de le faire. D'un autre côté, si je vous parle de l'évolution de l'homme dans 2000 ans et que je vous décris des tableaux qui aujourd'hui chignent ou nous fait rechigner à cause de l'exploitation psychologique dont on a souffert pendant des siècles de temps, à ce moment-là, c'est plus la même situation. Si vous me demandez de vous expliquer telle chose ou telle chose ou telle chose dont j'ai la capacité parce que je ne peux pas penser, et qu'à ce moment-là, vous, à cause de l'émotion humaine, à cause du fait que vous n'avez pas réalisé encore l'importance à l'homme, chez l'homme, d'être totalement centrique, je ne dis pas égocentrique, je dis centrique, à ce moment-là, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux bien vous décrire ce qui va se passer, ce qui doit se passer dans le cosmos. C'est à vous de le vérifier par vous-même. Si vous avez contact avec des extraterrestres, si vous avez contact avec des forces sur des autres plans et que vous avez l'habilité de communiquer avec elles, si ces forces travaillent sous l'égide des forces de la lumière, ils seront totalement en accord avec ce que je dis. Si elles travaillent avec les forces qui retardent l'évolution de l'homme, elles seront totalement en désaccord avec ce que je dis. Et à ce moment-là, lorsque vous serez pris entre l'accord et le désaccord, vous serez obligé par vous-même de faire la synthèse et de savoir avec qui vous parlez. C'est ça ma job. C'est ça ma job. Ma job, c'est pas plus que ça. Ma job, c'est pas de convaincre le monde, commencer à faire comprendre au monde puis développer des grands tableaux pour l'abrutissement des esprits. On est assez abrutis comme on est là. On est bourré comme des salades. Le point qui est important, c'est que les hommes doivent éventuellement réaliser en eux la centricité totale. Et la centricité, cette centricité-là, est totalement en dehors de l'ego, elle est liée, elle provient du fait que l'âme, l'ego et la personnalité sont fusionnés. Et à ce moment-là, l'homme, il est centrique, il n'est plus influençable, il sait. Et s'il parle avec un homme qui sait, il sait que l'homme sait. Et s'il parle avec un homme qui croit qu'il sait ou qui pense qu'il sait, lui sait que l'homme pense qu'il sait et lui, il est neutre à ça.
Alors moi, j'imagine des gens qui sont ici pour la première fois qui entendent parler ou crier Bernard, doivent se dire, ils viennent nous dire qu'il ne faut pas croire. N'importe qui, il ne faut pas croire ce qu'on nous dit.
Vous n'avez pas le droit de croire. Si vous croyez, vous êtes dans la merde, automatiquement. Parce que vous vous soumettez à une influence. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça n'a pas d'importance. Si quelqu'un vous dit quelque chose, et qu'il a raison, qu'il est dans l'intelligence créative, vous allez le savoir. Alors, vous allez entreprendre avec lui un dialogue facile, normal, plaisant. Mais si quelqu'un vous dit quelque chose qui est dans l'erreur, pas par sa faute, mais parce qu'il est dans une forme, à ce moment-là, vous ne serez pas affecté par la forme. Si quelqu'un vous dit quelque chose, il ne s'agit pas de nier ce qu'il vous dit. Ça, c'est l'erreur que les gens font. Il s'agit d'écouter ce qu'il dit. Et si ce qu'il dit, clique, claque, tant mieux. Si ça ne clique pas, il n'y a rien là. Mais si ça clique, mais tant mieux, ça vous fait un chance. Ça vous fait quelqu'un avec qui parler. Puis s'il y en a 2, 3, 4, 10, 100, 500, 1000, c'est le fun. C'est plaisant. Mais si vous commencez à croire quelqu'un, vous êtes fini. Vous êtes fini. Vous ne serez jamais centrique si vous croyez quelqu'un. Mettez ça dans votre tête. Jamais vous serez centrique si vous croyez quelqu'un. Mais niez pas ce qu'une personne vous dit. Attendez de savoir.
L'impression que j'ai de cette rencontre avec Bernard, si je me place toujours à quelqu'un qui vient pour la première fois vous écouter, Bernard est un fin patineur qui déjoue parfaitement tout montage mental et intelligent, puisqu'il dit d'abord il ne faut pas penser. Ensuite, lorsqu'il nous dit il ne faut pas croire quelqu'un, mais qu'il nous dit deux instants plus tard, moi je vous dis que si vous communiquez avec les forces de la lumière, vous verrez que ce que je vous dis, donc croyez-moi, c'est vrai. Et si vous communiquez avec des forces des ténèbres et que vous avez l'impression que c'est faux, c'est parce que vous communiquez avec des forces des ténèbres, parce que moi je communique avec les forces de la lumière. Croyez-moi. Mais croyez-moi pas. Puis pensez pas que c'est. Alors, je me dis, moi je suis pas patiné comme Bernard. Je viens de l'écouter pour la première fois, là, puis je suis tombé sur la glace.
Quand vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre peau. Quand vous parlez à un chum qui est gentil, qui est informatif, qui vous aide, vous l'appelez un chum. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous casse les pieds, mais c'est plus un chum, vous n'avez pas besoin d'un psychiatre pour vous dire si c'est un chum ou si c'est pas un chum, vous le savez dans votre expérience. Avec les forces qui pénètrent la conscience de l'homme, c'est la même chose. Si vous êtes en conscient, en contact avec des intelligences créatives, parce que ces intelligences vont vous dire, par la façon dont vous allez agir à travers l'énergie de ces intelligences, vous saurez si ces intelligences-là sont bonnes ou mauvaises. On juge toujours l'âme par ses fruits. Alors, il s'agit de pouvoir juger votre propre arbre par vos propres fruits. Si vous êtes bien dans votre peau avec des intelligences, vous allez le sentir. Si vous êtes mal dans votre peau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. À ce moment-là, il faut les mettre à la porte. Et la polarité de l'expérience qui résulte de la transmutation du corps mental de l'homme va créer pendant un certain temps cette ambiguïté. C'est pour ça d'ailleurs que le doute existe. Et je vous dis bien que tous les gens qui doivent passer, qui doivent entrer en contact avec cette énergie, doivent souffrir le doute. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que le mental, il est polarisé. Jusqu'au moment où cette dualité est totalement détruite et que vous fonctionnez d'une façon synthétique, c'est une synthèse. Là, à ce moment-là, il n'y a plus de doute. Là, vous êtes centrique. Lui, Glenn, c'est mon chum. Ça par rapport, mais c'est mon chum. Là, il essaie de me mettre sur le spot. C'est important qu'il me mette sur le spot. Parce que d'abord, il ne peut pas me mettre sur le spot. Je ne suis pas mettable sur le spot. Mais quand il me met sur le spot, il fait un travail extraordinaire. Parce qu'il me permet d'expliquer un petit peu plus loin la nature du spot. Fait que plus vous me mettez sur le spot, mieux c'est. Parce que plus je peux jeter de la clarté sur le spot. Vous autres, vous êtes chanceux, vous êtes assis dans une chaise, là, puis moi je gueule ici, ça, ok. Mais moi je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, cette expérience-là. Puis je sais qu'est-ce que c'est, cette expérience-là. Puis je vous en donne le bénéfice de mon expérience, de cette expérience-là. Le doute, je l'ai vécu. Le doute au bout, je l'ai vécu. Parce que ça va loin quand tu commences à... Quand tu commences à se mêler de tes affaires, ça va loin de l'affaire. Fait que le doute, je l'ai vécu. Alors, je vous parle simplement pour vous faire comprendre que si vous autres, un de vous autres, comment ça serait un de vous autres, en arrive à faire l'expérience de ce contact avec cette énergie, je vous donne le bénéfice de mon expérience. Prenez-les, prenez-les pas. Moi, ça ne change rien à mon expérience. Mais je vous donne le bénéfice de mon expérience. Et quand vous serez dans la même expérience, vous saurez, vous comprendrez